On est très souvent entendu. De manière générale, la stabilité du couple est une notion qui est parfaitement comprise. Est-ce que cette stabilité du couple passe par le mariage? Ça, c'est une question qui vient ensuite. Mais en toute hypothèse, les candidats et les partis de bords très divers comprennent de façon tout à fait claire qu'il faut aider en fait les couples à stabiliser leurs relations et que cette stabilité est une des conditions pour que l'enfant, mais également elle et lui, aient une vie avec moins d'incidents, moins de douleurs, moins de coûts. Coûts au sens mauvais coûts, coûts au sens de coûts coûteux pour la société y compris. Hein. Nos approches qui ne sont pas simplement moralistes au sens l'application d'une règle venue d'un peu ailleurs, mais au contraire fondée sur l'observation de ce que les personnes vivent, est très bien reçue. On comprend aujourd'hui que l'instabilité, c'est bien une source en fait de difficultés et de souffrances.
Alors comment on passe de cette acceptation qui apparemment fait consensus sur le couple, à un couple qui passe par le mariage?
Il y a sans doute plusieurs choses. La première chose, c'est il faut comprendre comment dans la stabilisation, l'engagement en fait d'elle et de lui vont jouer un rôle. Après, il va rester une chose supplémentaire qui est que la société comprenne mieux en quoi un engagement public, c'est-à-dire à l'égard de l'autre, mais face à la collectivité, c'est également un élément de stabilisation. Quand on prononce, par exemple, chez les religieux des vœux, il y a des vœux qui sont privés et il y a des vœux qui sont publics. Donc, on a expérimenté depuis longtemps que la dimension publique apporte quelque chose d'extrêmement important, extrêmement fort. Maintenant qu'on a passé un peu l'affrontement idéologique pour ou contre le mariage, on peut maintenant retravailler sur ce qui font, au-delà du mot mariage, les fondements en fait d'une relation stable au sein du couple.
Il y a des demandes d'adoption de couples non mariés, il y a aussi des demandes de procréation assistée. On a l'impression quand même que toutes ces demandes sont le reflet quand même d'un besoin de famille et de création de famille. Alors pourquoi ne pas forcément être d'accord avec ces différentes propositions?
Le besoin d'enfant est un besoin naturel. Nous reconnaissons parfaitement en fait la légitimité de cette intention, de ce besoin, de ce désir. En revanche, ce que nous mettons en évidence, c'est que si ce besoin est légitime parce qu'il est humain, il n'est pas toujours légitime d'y consentir parce que ça n'engage pas seulement les parents, ça engage aussi l'enfant. Et on ne peut accepter que ce qui fondamentalement va faire que l'enfant sera dans les bonnes conditions pour sa venue au monde, pour sa croissance, pour son éducation, mais plus encore pour son équilibre psychique. Et puis, pour ce qui concerne la PMA, nous soulignons aussi que un enfant, c'est pas simplement, en fait, un désir. Un enfant, c'est un lien avec son passé, c'est un besoin de savoir qui on est. Et la PMA, en particulier quand elle est hétérologue, c'est-à-dire qu'elle fait appel à un donneur de gamètes, en réalité, elle trouble le futur enfant parce qu'il va se retrouver dans une situation où ses parents, on ne saura plus bien qui c'est et que ce qu'il fera génétiquement et physiquement ne sera pas nécessairement en concordance avec ce qu'il vivra en fait au jour le jour.
Un autre sujet de société aussi assez clivant, c'est celui de l'euthanasie. Alors, selon vous, est-ce que cet appel en faveur à l'euthanasie est le fruit d'une vraie réflexion ou bien c'est un simple produit d'appel politique ?
L'euthanasie est un sujet fort parce que c'est une mauvaise réponse à une vraie question qui est celle de la dignité humaine dans la souffrance. Les AFC, les catholiques, témoignent du fait que la dignité humaine reste intacte, y compris dans les situations de souffrance. Et que donc, à cette question qui est légitime, la réponse, elle est dans la qualité de la relation humaine, dans la qualité des soins, bien entendu aussi, hein, et pas du tout, en fait, dans une fuite vers la mort que nous, les chrétiens, nous savons être finalement la souffrance des souffrances. Hein. Après, vous avez évoqué un certain clientélisme. À l'évidence, en fait, le fonctionnement démocratique conduit les appareils à chercher à séduire les opinions. Et séduire les opinions, en réalité, ça se fait malheureusement souvent plus facilement en accédant à des revendications diverses sans nécessairement forcer à une réflexion approfondie sur les sujets qui sont soulevés et simplement donc en intégrant dans le programme en fait le fait qu'on fera ceci, qu'on fera cela et souvent appuyé sur des valeurs un peu creuses qui sont la modernité. Quand le législateur se donne la peine de donner aux Français le temps d'une réflexion, on voit que la transgression, le modernisme, en réalité ne sont pas, en général, les voies que les Français finissent par choisir.
On va parler maintenant des parents. Dans votre brochure, vous rappelez que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Comment faire concrètement pour permettre à ces parents de se réapproprier ce rôle d'éducateur ?
premier axe de travail, c'est aider les parents à reprendre confiance dans une capacité qu'ils ont d'élever leurs enfants. Donc ça, c'est une première chose. Et on voudrait que l'État, les organisations publiques, prennent en compte, en fait, ce besoin de soutien, en fait, des parents. Deuxième aspect, évidemment, indispensable de parents premiers éducateurs, c'est d'améliorer, d'approfondir, hein, d'aller plus loin dans la coopération, notamment entre l'école et les parents. Évidemment, on a eu pendant un temps rêvé que l'école finalement se substituerait aux parents par une professionnalisation de l'éducation. On se rend compte aujourd'hui, et les professeurs sont les premiers à le dire d'ailleurs, hein, l'enfant requiert du sur-mesure. Le professeur n'a pas la capacité, ni technique, ni affective, ni de temps pour faire ce sur-mesure. Et donc, et ça, en revanche, il n'y a que les parents qui peuvent le faire. Et donc, la coopération parents-professeurs, parents-école, elle est précisément, en fait, dans cette distribution entre le professeur qui fait un travail général et les parents qui font un travail particulier. Et donc, il n'y a que en parlant régulièrement ensemble de ce que chacun voit, qu'on réussit ensemble à trouver les solutions qui vont conduire les enfants vers un succès plus fréquent et plus certain. Il y a un troisième élément qui est certainement en fait un besoin davantage de liberté en fait hein, dans le choix des chemins et des possibilités d'instruction pour ces enfants. En France, nous avons une conception de l'école qui est assez rigide, qui se manifeste par cette espèce d'affrontement école publique, école libre. Il faut que l'on avance et que les parents disposent de plus en plus d'un vrai choix d'un établissement de leurs enfants. Pour l'éducation à la fois, ça c'est une première chose, mais pas seulement, également pour matérialiser justement ce sur-mesure que requiert chaque enfant et qui doit pouvoir se matérialiser de temps en temps quand c'est utile, quand c'est indispensable, par « je choisis aussi l'établissement pour mon enfant ». Il n'y a rien ne permet de penser que le bon choix de l'établissement de son enfant, c'est l'école d'à côté. Donc vous voyez les trois éléments de notre proposition politique pour que les parents soient effectivement premiers éducateurs, mais c'est-à-dire éducateurs avec plus d'harmonie avec les différents outils d'éducation qui leur sont proposés.